seulement à Paris.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui a la joie de retrouver aujourd'hui ce qu'on appelle la rentrée, c'est-à-dire le chemin du studio, c'est-à-dire le chemin du direct et le chemin des grands écrivains qui viennent nous voir puisqu'on a le plaisir pour cette première nouvelle journée de cette nouvelle saison de la danse des mots d'avoir avec nous Dany Laferrière qui est très présent dans la rentrée littéraire avec un livre qui paraît, qui reparaît devrais-je dire peut-être chez Zulma qui s'intitule Pays sans chapeau et un autre grand livre assez récent qui ne vient pas de sortir mais qui est sorti au printemps dernier chez Grasset et qui s'appelle Autoportrait de Paris avec chat. Des chats de Paris, des pays et des chapeaux, Dany Laferrière est venu nous parler. Bonjour Dany Laferrière, merci bien d'être là, de venir nous voir après que vous avez vu, malgré tout, beaucoup de journalistes, beaucoup de radios, beaucoup de télévisions. Je dis ça parce que vous en faites état justement dans vos livres qui parlent des endroits où vous habitez, où vous revenez, que ça soit Port-au-Prince dans Pays sans chapeau, où vous revenez 20 ans après l'avoir quitté, 20 ans après avoir habité à Montréal, et le livre donc a été publié une première fois en 1996, que ça soit à propos de Paris, dans cet autoportrait de Paris avec chat qui est paru donc chez Grasset. Vous dites bien souvent que vous habitez dans des villes, mais que vous êtes souvent en face des journalistes qui vous posent des bonnes questions. Et vous citez une des questions qu'on vous a posées, comment devient-on un écrivain primitif ? On vous l'a déjà posée, donc je ne peux pas la réitérer, il faut que j'en trouve une autre. Mais je vous demanderai bien ce que c'est pour vous qu'un écrivain primitif.
Eh bien, c'est l'obsession de ma vie.
Ça, j'ai bien compris. L'une de vos obsessions.
Ce qui est intéressant, c'est que souvent les écrivains se réfèrent à des écrivains. Cette fois-ci, je me réfère à des peintres. Et j'ai toujours été impressionné, fasciné même par l'art des peintres primitifs.
Cet art... Là, vous pensez spécialement aux peintres haïtiens?
Oui, je pense spécialement aux peintres haïtiens, aux grands peintres Hector, Hippolyte, Philomé Aubin et de Castabasile, que j'ai signalé d'ailleurs dans ce livre Autoportrait de Paris avec chat et durant la visite de Malraux et ou de Breton aussi quand il était allé dans la Caraïbe avec Wilfredo Lam, je pense à ces peintres là. C'est-à-dire cet art qui paraît très brutal et à première vue, on dirait que les couleurs sont plaquées, tout est au premier plan, les visages sont comme si on ne pouvait faire que des zooms sur les personnages, on ne peint que des foules, de marchés et autres. Et puis un jour j'ai regardé ça plus attentivement et j'ai vu qu'il y avait un aspect secret et que cet art qui donne l'impression de ne pas avoir été bien étudié, bien analysé, d'être tout en instinct, est en fait très sophistiqué. Et c'est un changement de regard. Dans l'art occidental, il y a toujours un point de fuite qui permet au spectateur, à celui qui regarde le tableau, de voir tout le fond du tableau, qui donne une profondeur de champ. Et qui invite même d'ailleurs celui qui regarde à pénétrer dans le tableau et à faire un petit tour, si l'on peut dire, dans l'univers de ce peintre. Qu'en est-il du peintre primitif, puisque tout semble vouloir se précipiter vers le plus haut premier plan, jusqu'à vouloir sortir du tableau? Et c'est là la question. Sortir du tableau pour aller où? Alors je me suis demandé, peut-être qu'ils ont inversé le point de fuite, il n'est plus au fond du tableau pour montrer une perspective une profondeur de champ, il est plutôt dans le plexus de celui qui regarde, donc on l'a changé de côté. C'est le tableau qui vous pénètre. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire en littérature. Faire en sorte de présenter les événements avec un cortège de sensations, d'émotions et de sentiments de telle manière que le lecteur perd son sens critique. Il est phagocyté par les sens.
Mais c'est ce que vous dites à un moment, puisque vous dites que parfois, pour vraiment comprendre un écrivain, il faut abandonner tout sens critique, comme si, progressivement, le visage de l'écrivain devant la naïveté apparente du lecteur allait pouvoir apparaître.
Oui, je crois que Sainte-Beuve l'a bien dit avec raison. Lui, il a dit à sa manière et dans son époque. Il a dit, quand je veux étudier un écrivain, je l'analyse sous l'article de l'argent, sous l'article de la foi et sous l'article du temps. Et à un moment donné, en lisant les volumes, et on finit par voir apparaître le visage de l'écrivain. Et je crois ça. Je crois pas que ce soit l'esprit critique qui permet de comprendre. Je crois que c'est la masse et d'attention, de concentration et qu'on donne à un écrivain qui finit par nous pénétrer.
Oui. Avec une espèce d'effacement de l'esprit critique. Quelque chose qui fait penser au zen d'une certaine façon. Comme si on arrêtait de penser, qu'on arrêtait de critiquer et que là, il puisse y avoir une sorte d'échange magique entre ce que l'écrivain a projeté et ce que le lecteur va absorber.
Totalement. Je crois que la question va toujours au lecteur. L'esprit critique, il est là quand la personne qui nous lit a un autre projet, celui d'écrire sur ce qu'il a lu. Mais les humains ne sont pas faits pour ça. Je me souviens, j'étais critique de théâtre à Montréal, et quand j'étais en vacances et que je sortais d'une pièce, les gens se précipitaient sur moi, comme si j'étais au boulot, pour me demander qu'est-ce que vous pensez. J'ai dit non, je suis en vacances, j'ai payé ma pièce, et mon sentiment ne regarde que moi. Et j'étais très heureux d'avoir cette possibilité de ne pas commenter, parce que je ne passais pas mon temps durant la pièce à essayer d'organiser une réflexion critique sur la pièce. Et j'étais en état d'absorption, j'étais submergé par la pièce, j'étais devenu celui, le dramaturge.
Donc vous avez l'impression que on ne voit pas une pièce de la même façon si on y va pour écrire un article et si on y va de façon, disons, plus naïve. De même, si on écrit, si on lit un livre, on ne le lit pas de la même façon si on doit interviewer l'auteur, par exemple, ce qui est mon cas en ce moment, ou bien si on le lit simplement par intérêt, par plaisir.
Oui, je crois que les grands critiques prennent toujours 2 ou 3 mois pour lire des livres qu'ils ne pensent pas à commenter. Souvent, ils le font avec des classiques qui ne sont pas sur le devant de la scène, dont ils n'ont pas à commenter. Il faut toujours continuer à regarder le monde en rêvant d'être absorbé par ce monde. Parce que si on le regarde tout le temps en rivalité, et on finira par dans une sorte de vanité.
Oui. Alors, vous venez de dire il y a un instant, Dany Laferrière, que être un écrivain primitif, c'est l'une de vos obsessions. Vous en avez d'autres, des obsessions. Et en particulier, revient constamment dans vos livres cette interrogation, qu'est-ce qu'être un écrivain ? Tout court. Jusque dans vos titres, japonais, en pyjama, etc. Qu'est-ce qu'être un écrivain ? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à l'écrivain primitif que se poser cette question ? Non, ou est-ce que justement, c'est quelque chose qui pourrait le différencier ?
Je pense que vous mettez le doigt sur la chose. Et vous avez dit 2 mots là. Vous avez dit le mot constamment, revient constamment. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Le ressassement, la constance, et prendre 30 livres pour dire 2 ou 3 petites choses, et 2 ou 3 petites obsessions qui vous trottent la tête, dont la première est, et qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? Cette question n'est pas innocente, elle m'a été imposée, c'est-à-dire par la réalité et des pouvoirs et face à l'imaginaire. J'écris un livre, il peut parler du Japon, on finit toujours par me mettre dans la boîte et Caraïbes. Et jamais on m'a comparé à un écrivain allemand, en même temps un écrivain américain, sénégalais, ivoirien, chinois. C'est-à-dire, cette idée pour moi de la littérature, de l'enfant qui était dans sa petite ville à Petit-Gouave, c'était une idée d'enjamber la fenêtre et de sortir de l'endroit et où je me trouve. C'est pour ça que j'ai lu et c'est pour ça que j'ai écrit, pour sortir de l'endroit et même de mon être même. Et pour aller chercher une autre identité, quelque chose, et rejoindre un peu ce pays absolument et qu'on ne peut pas trouver sur la carte, où se rencontrent les écrivains et les lecteurs. Donc c'était cela. Et pourtant, chaque fois que j'écris, on me ramène à ce point de départ. C'est comme si la police, on a déclaré ma disparition et on a envoyé la police à ma recherche. Donc j'ai l'impression que tous les gens, chaque fois que je viens voir arriver un critique, j'ai l'impression d'être un enfant qui est rattrapé par la police et qui va retourner à l'endroit d'où il vient. Vous savez, l'image que j'ai au cœur de ma vie, c'est quand j'avais 8 ans, 9 ans, et que je suis monté sur un vélo, une bicyclette, et j'ai filé, presque sans savoir conduire une bicyclette, et j'ai pu filer vers le sud. Je voulais pas m'arrêter, je ne savais pas comment faire, je savais pas comment retourner, mais je savais que c'était la bonne direction, toujours vers le sud. Et je filais, la vitesse m'emportait, et la poésie de la vitesse, je ne voulais plus revenir. Alors donc, pour moi, c'était ça la littérature, l'écriture et la lecture, partir et sans revenir.
La danse des mots toujours et toujours avec vous, Dany Laferrière, à propos de ces deux livres, Pays sans chapeau chez Zulma, Autoportrait de Paris avec chat, deux livres extraordinairement différents, mais qui rappellent justement votre questionnement, qu'est-ce qu'être un écrivain et même comment écrit-on. Ces deux livres, vous les avez écrits de façon extrêmement différente. Le premier, j'imagine, à la machine, avec cette Remington dont vous parlez bien souvent,
Sous-Amanguier,
qui fait... Pensez que, justement, pour vous, qui quittez à 20 ans Haïti pour aller vivre à Montréal, être un écrivain, et même peut-être être un écrivain américain, c'était important. Et que le fait d'écrire sur la Remington, ça correspondait à l'image de l'écrivain. Image toute faite, peut-être, hein, photographie, cliché de l'écrivain américain, celui qui tape à la machine.
Oui, bien sûr, on commence toujours par les clichés. C'est le snobisme qui fait avancer les choses. Et l'enfant ne veut pas obéir, il imite. Alors j'imitais Hemingway, j'imitais Bukowski, c'est comme ça qu'on commence. Et après, on tombe dans la
potion. Avec ce rythme, avec ce bruit même, ce claquement de la machine à écrire qui fait de vous un écrivain en acte.
Oui, c'est ça. Je voulais quelque chose qui donne une impression d'activité. Et j'aime bien l'expression écrivain en acte et qui me donne l'impression de faire quelque chose. Il y avait une machine et c'était l'ère industrielle et je sortais d'un pays où on avait l'impression qu'on fouillait la terre avec la main pour mettre des graines et faire pousser les arbres. C'était manuel et là j'étais dans la machine et j'avais l'impression de rattraper le temps, de rattraper l'époque contemporaine, de rejoindre Hemingway, Bukowski, Miller, Sandrart et tous ces écrivains que j'admirais. Mais le temps a passé et je suis revenu à la main.
Alors justement, vous en parlez dans Autoportrait de Paris avec chat, et vous racontez une entrevue avec votre éditeur chez Grasset, Charles Danzig, qui vous demande ce que vous faites, et vous lui répondez « J'écris un livre dessiné ». Quelque chose que je ne sais pas faire. Alors cette expression livre dessiné, est-ce qu'elle correspond bien à cet autoportrait de Paris avec chat ?
Oui, je pense que en fait c'est un livre tout simplement. Je crois qu'il n'y a que
tout simplement, dites-vous, c'est pas si simple. C'est un livre, c'est pas si simple parce que c'est un gros livre, un gros album où on voit votre écriture à la main et on voit des centaines de dessins avec un rapport entre l'écriture, la colonne écrite, les mots calligraphiés ou en tout cas écrits à la main et les dessins coloriés ou pas qui changent page après page. Donc c'est un livre tout simplement, c'est un livre compliqué.
C'est un livre compliqué, mais c'est toujours dans le goût de se rendre libre. Vous savez, on a mis beaucoup de... La machine a pris une importance extraordinaire. Les intermédiaires dans la littérature ont pris une importance extraordinaire. Les critiques, les libraires, les diffuseurs, les éditeurs. Voilà un livre qu'on peut faire tout seul. Et écrire à la main, et qui rappelle les bénédictins plutôt. Et puis aussi, qui laisse des traces de la sensibilité de l'auteur, et de sa manière, son écriture même. Les gens qui étudient la calligraphie vont bien voir, qui étudient le tempérament, le caractère d'un homme en regardant, en analysant sa manière d'écrire à la main. Et les fautes, j'efface, je fais une petite fleur pour cacher, comme font les enfants, une erreur. Et...
Oui, c'est barré de temps en temps, il y a des petits repentirs, une faute d'orthographe que vous rectifiez,
oui,
un mot que vous changez, vous écrivez toujours, vous le barrez, vous mettez souvent à la place.
Ce n'est pas coquetterie, c'est tout simplement j'écris sur deux jambes, c'est-à-dire la jambe écriture et la jambe dessin. Alors quand je fais des dessins et que je trouve qu'ils sont très 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 bien et que je fais une faute ou deux fautes, ça commence à être un peu... Donc je préfère les corriger sur place que de reprendre, parce que moi je suis pas dessinateur, ça me prend beaucoup de temps. Et ça me prend surtout une sorte d'attention pour arriver à me libérer du poids et du complexe plutôt de n'être pas un dessinateur. Donc quand j'arrive à sentir que le personnage que je dessine, mal dessiné mais qu'il est là présent et qu'on le sent plus fort, je vais pas reprendre la page. Alors je barre la faute, l'erreur et puis je continue.
Mmh. Donc, alors, oui, on voit bien que l'artisanat de l'écriture est très différent dans Autoportrait de Paris et dans vos autres livres. Les unités sont différentes. Il y a des chapitres, par exemple, dans Pays sans chapeau, il y a des chapitres avec une alternance, pays réel, pays rêvé, avec chaque fois un proverbe qui est traduit en français, un proverbe qui est donné, non pas en français, mais en créole, et ensuite que vous avez traduit. Alors que dans Autoportrait, l'unité, qu'est-ce que c'est ? C'est la page. Pour chaque page, une structure différente.
Oui, selon l'instinct, selon le moment, selon les personnages, ou surtout la vision. Et parce qu'il me faut, quand dans Pays sans chapeau, je suis dans un récit, et un récit, je le vois et je l'attends, et en écrivant, le récit continue. Mais dans ce livre, Autoportrait de Paris avec chat, j'attends quand même une illumination. Quelque chose qui me dit, qui me donne envie de dessiner, envie de perdre ce temps-là. Parce que je peux pas faire beaucoup de brouillons. Il faut que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appelle.
Donc le travail de relecture est très différent dans Autoportrait de Paris et dans vos autres livres.
Mais en avançant dans Autoportrait, le livre se fait. Et c'est ce livre qui va paraître en librairie. Et sous nos yeux, il n'y aura pas de correction. Et on va me signaler les erreurs et les fautes pour essayer de... Mais j'ai pas du tout le même regard sur une faute qui est dactylographiée, qui est imprimée. Parce que là, je me dis, je suis à nu.
Oui.
Je suis littéralement à nu.
Et en même temps, il y a peut-être une ivresse d'être l'artisan de votre travail, c'est-à-dire ce que vous avez fait, c'est ça qui sera pratiquement dans les mains du lecteur. Quand on écrit un autre livre, vous tapez sur votre ordinateur ou sur votre Remington, après la mise en page, c'est tout à fait autre chose. Vous ne reconnaissez pas la matière même de votre livre. Alors que là, comme un peintre, c'est la même chose qui est donnée au lecteur.
Et là, l'éditeur arrive, et c'est sa grandeur, il voudrait absolument que ce soit le plus proche de l'original. Alors que vous, quand vous donnez un manuscrit à l'éditeur, et il est aussi un artisan, il le voit, il va le mettre en page. Et alors que là, il est, tout son travail, c'est d'essayer de trouver le papier avec la bonne texture, de trouver les lignes et les couleurs, de pouvoir l'imprimer avec toute la fraîcheur de la couleur, de faire les oppositions de couleurs, et tout, et sans juger et de l'affaire.
Thank you.
Dany Laferrière, merci encore d'être avec nous pour cette première danse démo de la nouvelle saison 2018-2019. Vous êtes venu donc avec les deux livres que vous avez fait paraître cette année, dont un est une reparution. Pays sans chapeau est paru d'abord en 1996, 20 ans après que vous aviez quitté Haïti. Vous y revenez après 20 ans passés à Montréal. Et il semble qu'il y a une double direction, une double structure dans le livre. À la fois, c'est vos retrouvailles avec ce pays natal, on peut dire, et en même temps, c'est une fiction sur, disons, sur la vie des morts. Pour inventer une histoire, est-ce que cela vous aide justement de revenir à quelque chose de biographique? Ce qui a été le cas là, vous retrouvez votre mère Marie, votre tante Renée, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc. À la faveur de ça, va naître une histoire, une fiction. Quel est le rapport entre les deux?
Il n'y a pas de rapport en fait, de différence entre fiction et réalité, c'est ce que j'ai compris au fil des ans. Les enfants le savent spontanément. C'est pour ça qu'ils mentent si bien, parce qu'ils sont contents. Ils sont contents d'être dans un récit, d'être dans une fiction. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas qualifier de mensonge ce que nous disent les enfants, qui ne soit pas vrai. Et pour autant, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas un mensonge. C'est de la fiction. Ils sont en train d'inventer le monde. Donc j'ai compris comme un enfant que mêler fiction et réalité, c'est se rapprocher de la réalité. Rapprocher la réalité de la fiction, c'est se rapprocher de la fiction. Donc c'est tout à fait la même chose. Le pays réel, c'est la même chose que le pays rêvé. Et il n'y a pas de pays réel sans pays rêvé. Sinon, on ne se lèverait pas du lit pour aller vivre. Comme dit ce peintre à qui j'avais demandé, mais pourquoi vous peignez des fruits aussi appétissants, des arbres coulants sous des fruits et comme ça charnus dans cette nature bondissante, joyeuse, et alors que autour de vous ce n'est que désolation dans ce pays Haïti d'aujourd'hui. Il m'a dit, monsieur, le pays réel, vous le voyez bien, donc il me reste à vous proposer, à vous offrir le pays rêvé. Et ce pays rêvé, c'est ce qu'il fait. Il a dit, si on perd ce pays rêvé, qui fut un temps vrai, qui fut un temps réel, eh bien, on enlèvera tout espoir et aux gens qui vont venir. Ils ne sauront pas que nous avons été ça aussi.
Ce croisement entre réel et rêvé, c'est ça qui permet de fabriquer ce que vous appelez des romans. Je dis ça parce que dans les deux livres qui sortent là en France en ce moment, chaque fois il y a marqué roman. Pays sans chapeau, roman, alors que beaucoup de choses reposent sur une autobiographie, votre retour, bon, alors, dit avec vos mots bien sûr, mais un retour réel de vous ayant passé 20 ans à Montréal qui revient en Haïti. Et de même dans Autoportrait de Paris, vous parlez de cette ville que vous connaissez, du 10e arrondissement, de la gare de l'Est, des écrivains qui l'ont mentionné, etc. Les deux sont appelés romans.
Le public le sait très bien, qui appelle tout roman. Faites pas un roman avec ça. Et tout est roman, ma vie est un roman. Si j'écrivais, j'aurais écrit un grand roman avec ma vie. Et tout est roman, c'est-à-dire, ce n'est plus la notion du 19e siècle du roman. C'est tout simplement, on a compris quand même qu'on ne peut pas écrire quelque chose de uniquement vrai, qu'il n'y a pas d'auto-fiction quand nous devons le faire dans des choses qui sont d'une rigueur absolue. La grammaire et le dictionnaire, ce sont des choses excessivement complexes, avec des temps de verbe pour la grammaire comme le passé composé deuxième forme, le futur antérieur. Comment voulez-vous rétablir la réalité avec des choses aussi sophistiquées? Et aussi les mots, je travaille dans le dictionnaire de l'Académie française, je sais très bien comment les mots changent de sens au fil des siècles. Et donc pour connaître tout ça et mettre ensemble et croire qu'on peut rétablir la netteté et l'intensité du réel avec des choses aussi artificielles que la grammaire et le dictionnaire, ce n'est que folie. En fait, et tout se passe dans la tête d'un homme, d'une femme, et se déverse aussi dans la tête et d'un lecteur, d'une lectrice. Tout est roman. Et tout est bon dans le roman, comme dans le cochon.
Tout est bon dans le roman, y compris l'intimité extrême qu'on a avec vous quand on lit vos livres, parce que on apprend un certain nombre de choses sans même que vous vous souciez de la façon dont on va les apprendre. Par exemple, vous appelez La Ferrière, c'est votre nom. Dany, c'est votre prénom. Et je sais, pour avoir lu plusieurs livres de vous, où je crois savoir, que votre mère, elle vous appelle Vieuxo. Ou votre tante, peut-être.
Ma grand-mère.
Votre grand-mère d'abord. Mais c'est présent. Et c'est, alors, je l'ai lu dans Pays sans chapeau. Je l'avais déjà lu dans un autre livre, là où votre ami Gensler et
Gessner, oui. Gessner, tout. C'était dans le goût des jeunes filles.
Oui, absolument.
Mais aussi dans le cri des oiseaux fous surtout.
Et je ne sais même pas comment vous le prononcez. Et pour moi, vous êtes Vieuxo, mais je me dis peut-être il dit Vieuxos.
Non, Vieuxo. Oui.
Vieuxo. Ah, je suis content de le savoir.
Vieuxos, généralement, c'est qui ne sont pas d'Haïti, mais en Haïti, c'est Vieuxo. Ouais. Mais ce qui est intéressant, enfin, chez moi, je pratique l'esthétique que j'appelle l'esthétique de la roue. C'est-à-dire, une roue, pour avancer, doit tourner sur elle-même. Et sans perdre. C'est pour ça que je me répète que quand on trompe sur quelque chose de familier dans un livre, ça devient familier parce qu'on se rappelle de l'avoir déjà lu d'une autre manière. Donc c'est ça qui tout le temps et donne cette impression de proximité au lecteur. Il a l'impression de savoir beaucoup plus et d'avoir un savoir préétabli.
Est-ce que ce livre, qui est paru une première fois en 1996, est-ce que vous l'avez retouché pour sa nouvelle édition chez Zulma, Pays sans chapeau?
Ben, les éditions Zulma, ils travaillent beaucoup pour les corrections, pour la typographie. Et on n'a pas touché le livre, mais on a beaucoup travaillé dessus. C'est ce que j'aime avec cette maison d'édition. J'ai l'impression, en publiant cette collection haïtienne chez Zulma, de faire des éditions définitives. Et parce que je suis satisfait et totalement de ce qui est là, il n'y a pas de faute, il s'est bien fait, c'est bien présenté, tout est... Par exemple, on a changé l'orthographe des proverbes créoles, qui étaient avant, c'était moi qui avais fait la traduction en créole, c'était plutôt étymologique. Mais là, on a mis dans l'orthographe officiel haïtien, et donc tout est... définitif maintenant.
C'est un très bel exercice parce que chaque fois, avant de prendre un nouveau chapitre, je lisais d'abord le proverbe en créole sans lire la traduction en me disant « je vais comprendre ». Je ne comprenais jamais. Je ne parle pas le créole et je vois bien
Mais quand vous lisez la traduction française, vous avez l'impression
bien
d'avoir
sûr, compris.
Bien
sûr, parce qu'ensuite on revient au créole. Bah, c'est toute l'ivresse ça de la lecture, de faire des allers-retours. Alors, vous parlez de votre relecture de Pays sans chapeau. Est-ce que vous avez relu Autoportrait de Paris avec chat. C'est une expérience de lecture très spéciale. C'est très long de lire Autoportrait de Paris avec chat. Et on ne le lit jamais totalement parce que...
Ah non, il ne faut pas chercher à le lire comme un roman de la première phrase à la dernière. Et c'est comme pour la poésie, vous savez. Il y a des gens qui n'aiment pas la poésie parce qu'ils pensent qu'il faut lire le recueil de poèmes du premier vers au dernier vers. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça se passe, et il faut humer d'abord le livre, il faut l'ouvrir où on veut, et y rentrer, comme quand on monte un train en marche.
Mais écoutez, je vous remercie infiniment, Dany Laferrière, d'avoir été avec nous pour nous parler d'Autoportrait de Paris avec chat, pour nous parler également de Pays sans chapeau. Je sais que vous allez en parler de nouveau dans un certain nombre de manifestations qui vous invitent, notamment le livre Dans la boucle à Besançon, où vous serez dans une dizaine de jours. Mais en attendant, merci
en
bien.
En compagnie d'un grand collègue, puisque Hugo est né à Besançon.
Ah, bien sûr. Il n'y a pas vécu beaucoup, hein. Il n'a fait qu'y naître à peu près. Ce siècle avait 2 ans, lui il avait 2 jours et puis il a dit ça suffit.
Oui, mais ça va quand même d'avoir donné naissance à Hugo. Non, il est 2 jours et 9 mois.
Oui, il est resté
dans le ventre. Oui. 2 jours et 9 mois.
En tout cas, merci d'avoir été notre premier invité de cette nouvelle saison, Dany Laferrière, invité donc de cette Danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Richard Rifono, Véronique Durand, Yvan Hamar.